2 Corinthiens 12, 2, nous avons évoqué cet événement tout à l'heure. L'apôtre Paul dit qu'il connaît un homme en Christ, et certainement que ce fut lui-même, qui fut ravi jusqu'au troisième ciel, mais il n'avait pas su si cela s'était passé dans son corps ou hors de son corps. Et il nous apprend aussi par ce texte que le troisième ciel est synonyme de paradis. Surtout ne pas confondre avec le nirvana des hindous et des bouddhistes qui correspond au septième ciel. La Bible ne parle jamais de sept ciels. Hein. Elle parle du troisième ciel comme étant le paradis. Et c'est de ce paradis-là que Jésus a parlé au brigand sur la croix qui s'était repenti de ses péchés pour son salut. Je te le dis en vérité, aujourd'hui même tu seras avec moi. Où ? Dans le paradis, le troisième ciel. Et là-bas, dans ce troisième ciel, dans ce paradis, l'apôtre dit qu'il avait vu des choses qu'il n'est pas possible d'exprimer avec des mots humains. Mais ce fut un enlèvement, peut-être dans son corps, on ne sait pas. Il ne savait pas lui-même. Hein. Mais il était passé comme par un enlèvement, et c'est le mot qui est employé là. Le mot harpazo, justement. Hein. Et puis il y a ensuite 1 Thessaloniciens 4,16, c'est à venir, cela. L'enlèvement de l'Église, nous l'avons rappelé, Apocalypse, chapitre 1er, celui de Jean, quand il dit qu'il fut ravi au jour du Seigneur. Alors le mot, il n'y a pas de verbe là. Littéralement, Jean dit ce qui suit dans le grec, qu'il fut au jour du Seigneur, en esprit. Je suis persuadé qu'il s'agit là non pas d'un dimanche, il ne fut pas ravi dans un jour de dimanche, comme certains chrétiens évangéliques que j'ai rencontrés le croient. Mais il fut ravi comme par anticipation au jour du Seigneur pour nous en dire quelque chose. Et il a vu la gloire du Fils glorifié. Et Jean, savez-vous, il était celui qui avait coutume de poser sa tête sur le sein de Jésus. Hein. Vous savez cela. Et pourtant, c'était ce même Jésus qui lui était apparu sur l'île de Patmos. Mais cette fois, dans toute sa gloire, alors il ne fut plus question pour ce disciple de chercher à poser sa tête sur le sein de Jésus. Mes amis, sur l'île de Patmos, il était tombé sur sa face, Jean, devant la gloire du Fils glorifié. Heureusement que le Seigneur étendit sa main et le remet sur ses pieds. Hein. Oui, parce que dans notre situation aujourd'hui, telle que nous sommes, si le Seigneur nous apparaissait maintenant dans cette gloire que Jean eut l'occasion de voir, oh, il me semble que s'il entrait par la porte, nous sortirions par les issues de secours. Nous n'aurions peut-être pas même le temps, parce que ces corps eux-mêmes n'en sont pas encore rédemptés. Toute notre difficulté en tant que chrétien, c'est que notre âme a été rachetée. Elle est rédemptée déjà, hein, maintenant, à partir du jour où nous recevons Christ pour notre sauveur personnel. Mais cette âme continue d'habiter dans un corps qui, lui, n'est pas rédempté. Et la Bible nous fait savoir que le Christ n'a pas seulement sauvé des âmes sur la croix, il a sauvé des corps aussi. Votre corps doit changer, le mien aussi. Ils doivent naître de nouveau. Ils doivent être rédemptés et rendus semblables à celui du Seigneur. Hein. Nous arrivons à cela dans quelques instants. Mais ces corps, tels qu'ils sont aujourd'hui, quoique chrétiens de longue ou de courte date, ne pourraient pas supporter, ce fut le cas de Jean, oh, l'éblouissante majesté du Seigneur. Son écrasante sainteté. Oh, nous serions tous sur notre face devant le Seigneur s'il devait nous apparaître maintenant, comme il est apparu à Jean. Mais il reste que Jean a été ravi au jour du Seigneur pour voir ce qui se passerait et aussi pour nous en dire quelque chose. Et surtout à partir de cette parole, n'est-ce pas, monte ici, en Apocalypse 4, 1. Laquelle annonçait prophétiquement, je le pense moi-même, l'enlèvement de l'Église. Pourquoi est-ce que je le pense ? Parce qu'à la fin du chapitre 3, c'est aussi la fin de l'Église, parce qu'il n'est plus question de l'Église ensuite dans les chapitres de l'Apocalypse, dans les chapitres qui suivent. Alors l'apôtre nous parle évidemment d'événements célestes, il nous entretient d'événements terrestres, mais l'Église, c'est fini. Oui, il revient bien entendu au dernier chapitre lorsqu'il dit « Et l'Épouse et l'Esprit disent « Viens ». Oui, mais cela, c'est encore l'Église sur la terre qui, disons, aspire au retour du Seigneur. Mais pour ce qui est de l'Église, c'est fini. Il n'en est plus question à partir de la fin du chapitre 3. Il n'y a plus rien. Donc, elle est au ciel. Et puis ensuite, c'est ce que nous verrons demain soir ici même. Les 7 années du règne de l'Antéchrist sur cette terre qui correspond au temps des tribulations. Et puis aussi, pour finir, Apocalypse 11, 7 à 11, les deux témoins. Alors, une question hier soir, est-ce que ce sera Enoch et Élie ? Vous savez, quand je traite de la prophétie, je suis quelqu'un de très prudent. Quand la Bible ne précise pas quelque chose, moi, je ne veux pas spéculer ni extrapoler. C'est peut-être Enoch et Élie, mais moi, je ne peux pas affirmer ces choses, je suis prudent. Parce que la Bible est sobre quant à ces deux témoins. Elle ne nous en donne pas les noms. Alors nous en restons là. 7 enlèvements. Alors ça nous suffit pour croire que l'événement se passera avec certitude, parce que le Seigneur nous enseigne la vérité, encore la vérité et toujours la vérité. Comment cet enlèvement se fera-t-il ? La Bible dit de façon très soudaine, 1 Corinthiens 15, 51-52. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Oui, c'est de cette façon-là. Et la Bible d'annoncer l'apôtre Paul de poursuivre, littéralement, oui, à la dernière trompette, il le dit, en un atome d'instant, en un clin d'œil déjà, en un instant, littéralement en grec, en un atome, atomé, en grec, le mot atomé, ben, c'est un, pas le temps de faire ouf. On part. J'espère que vous avez cette expression-là. Hein. Pas le temps de faire ouf, oui. Et on partira. On partira, le voleur nous aura pris, le divin voleur. Hein. Et en fait, ce sera un vol légitime. Hein, parce que cette fiancée, l'Église, elle est à lui. Elle n'est pas au diable. Hein. Alors, ce vol sera un vol tout à fait légitime. Une disparition de millions d'êtres humains. Tout à coup, comme cela, hein, de nuit ou de jour. Quelle sera la réaction du monde non sauvé ? Ah, on essaie de nous le mettre dans le crâne déjà. Il y a peu de temps, je tenais une campagne en Europe. Et j'ai coutume, avant une réunion, de marcher, comme je l'ai fait ici, pour m'oxygéner, avant de passer 1h30 ou 2 heures dans un lieu de réunion. J'étais donc sorti, m'oxygéner, puis tout à coup, une affiche. « Les extraterrestres arrivent. Et ils emporteront des milliers, des millions d'individus. » Voilà, on nous prépare cette interprétation. Oui, c'est ce que nous disent les Raéliens. Oui, les partisans d'un certain Raël qui a été enlevé, lui, par des soucoupes volantes, par des ovnis. Oui, vous en avez qui sont tellement, tellement pour les ovnis qu'ils en sont devenus littéralement ovnibulés. C'est ça que je les appelle. Alors, l'interprétation sera la suivante. Les extraterrestres, on en parle de plus en plus, sont sur le point d'emporter avec eux tant et plus de personnes parce qu'ils ont voulu faire de l'homme une expérience sur cette terre, etc. On pourra interpréter le départ de l'Église comme on voudra. Nous, on sera avec le Seigneur. Hein. Ah, amen, hein, gloire à Dieu pour cela. Et quelle joie dans notre cœur à ce moment-là. Mais c'est ce que présente justement cette carte. Hein. Est-ce que vous partirez, cette photographie ? Je dois dire qu'elle est assez saisissante. Ou bien est-ce que vous resterez sur cette terre ? Ah, pour la grande tribulation. Permettez que j'en dise un mot de la grande tribulation avant de terminer avec une dernière idée sur l'enlèvement. La grande tribulation, en réalité, concerne surtout Israël, mais aussi le monde, à partir du moment où l'Église aura quitté cette terre. La littérature chrétienne, les commentateurs de l'Écriture sont à peu près unanimes pour donner le nom de jour de l'Éternel à l'épilogue du présent siècle mauvais. Ce jour-là ne sera pas un jour de 24 heures, mais une période. Joël, par exemple, dit, en Joël 3:1, dit « en ces jours-là ». Et puis il précise un peu plus loin « en ce temps-là ». Donc ce temps-là représentera ces jours-là. La période n'est pas précisée par les prophètes dans l'Ancien Testament. Mais pour ce qui nous concerne, nous pouvons dire qu'il s'agit justement de ces périodes que nous livre d'une part Daniel. En fait, il en avait reçu déjà la révélation à propos de l'Antéchrist, mais aussi de cette période que nous livre et des semaines de Daniel, bien entendu. Nous ne pouvons pas passer de temps sur les 70 semaines de Daniel, ça prendrait tellement de temps. Et puis, il a tellement de choses à dire, et puis le temps tourne. Mais le Nouveau Testament, lui, donne des chiffres assez remarquables pour préciser ces temps de tribulation. Je disais que ces temps concernent surtout Israël, Matthieu 24, 21, 22. Dans un contexte touchant à Israël, il est dit « car la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais ». Mais Luc, lui, qui eut vocation de s'adresser à un horizon beaucoup plus large que celui d'Israël seulement, a dit ce qui suit en Luc 21, 25, 26, « Sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront plus que faire au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. » Mais répétons-le, la grande tribulation, la plupart du temps, s'adresse à Israël pour l'avertir également. Luc 21, 23, après avoir parlé de temps de difficultés pour Israël, « car il y aura une grande détresse dans le pays. » Quel pays ? D'Israël. Et nous avons précisé hier que s'il y a conflit au niveau de ce pays, c'est parce qu'avant d'être le pays d'Israël, le pays du peuple juif, à partir de textes que nous avons précisés, soulignés, Dieu dit au livre de Lévitique à Israël, « Ce pays est à moi. » C'est le pays de l'Éternel. Vous êtes, Dieu a dit à Israël, pour ceux qui n'étaient pas là, combien n'étiez-vous pas là ? Levez la main pour voir. Oh, c'est tout un nom, où est-ce que vous étiez hier soir ? Je vous taquine, hein ? Vous êtes ici chez moi, a dit Dieu à Israël. Vous êtes ici chez moi comme étranger dans ce pays-là. Donc, Dieu s'était choisi ce pays parce qu'il avait justement par Abraham déjà annoncé et déjà même au livre de la Genèse au chapitre 3 et au verset 15 à propos de la semence de la femme. Il avait déjà annoncé que viendrait le Sauveur du monde et bien entendu par Israël, la création du peuple juif. Il annonçait que le salut viendrait des Juifs, que le Messie viendrait sur cette terre d'Israël. Jésus a dit, le salut vient des Juifs, et qu'il reviendrait sur cette terre d'Israël. Voilà pourquoi Dieu veut absolument ce coin du monde pour lui. Et il avait voulu faire d'Israël, nous l'avons dit, la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités du monde. Et Israël avait manqué à cette vocation. En même temps qu'à cette mission, je n'ai pas le temps de revenir sur toutes ces questions pour ceux qui pourraient être intéressés par justement cette étude sur le pays d'Israël, d'abord pays de l'Éternel. Vous pouvez demander la cassette, je crois qu'elle est à la disposition. Oui, il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Et Jérémie 37 a parlé d'un temps d'angoisse pour Jacob. Donc, il s'agira de temps excessivement difficile, un temps de colère, oui, pour Israël. Vous savez qu'à l'heure qu'il est, la majorité des Israéliens sont des athées, vous l'avez entendu, vous le savez. Il faut donc faire très attention j'allais dire, de ne pas être à l'heure qu'il est des inconditionnels d'Israël, parce que la majorité est athée. Et la majorité ne croit pas que, précisément, le plan de Dieu s'accomplit pour eux en Israël. Ceci est triste quand on l'apprend. Et voilà pourquoi ce peuple devra passer par de grandes tribulations. Oui, et Zacharie dit même que les deux tiers des Juifs périront. Qu'il y aura des temps même de la colère, dite de l'agneau, non seulement sur ce monde, mais aussi sur le peuple d'Israël. Et cependant 3 ans et demi, dans la deuxième partie de ce temps de tribulation, lequel durera 7 années, à partir des 70 semaines enseignées par Daniel et de l'hébreu Shavua, qui peut être traduit par semaine ou par unité de 7 ou par cycle de 7. Voilà pourquoi nous n'hésitons pas à parler de semaine d'année et pas de semaine de jour. Les Juifs donc devront souffrir. L'Église et le Saint-Esprit y ont été retirés, enlevés de la terre. Oui, avant les jugements, le monde passera sous le règne du mensonge. Et il connaîtra une pression diabolique et tyrannique de la part du malin. Oh, quand nous rappelons les textes, par exemple, de 2 Thessaloniciens 2, il est important de les rappeler. Nous les rappellerons demain, mais rapidement, en parlant de l'Antéchrist. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie, au demain nous allons définir ce que cela représente, hein, et que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on ait vu paraître l'homme du péché. Alors c'est véritablement l'Antéchrist, c'est avec lui que l'apostasie véritablement entrera dans ce monde après le départ de l'Église. Le monde, l'Église est aujourd'hui un frein à l'apostasie. Vous l'êtes ici au Québec, nous aussi, mais on sent déjà que le diable, bien entendu, fait tout ce qu'il peut et que l'esprit de cette apostasie et de l'Antéchrist et du mystère de l'iniquité agit déjà. Oui, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il s'agira là donc de temps authentique d'apostasie. Et l'apôtre de poursuivre, mais nous verrons les choses demain à cet égard. Mais ce que nous pouvons affirmer, c'est qu'à l'heure qui naît, nos temps amorcent un début d'apostasie. Nous y sommes, nous y entrons là, très certainement, hein, par cette pression diabolique et satanique sur ce monde. Ceci est tellement clair, au point que, certainement, dans bien des endroits de ce monde, nous avons déjà dépassé, et souvent de loin, les temps de Noé et même de Lot. Mais la patience de Dieu est évidemment tellement remarquable, mais Dieu ne continuera pas de patienter comme il l'a fait jusqu'à ce jour. Alors, quand on nous dit « l'apostasie est-elle là ?» Non, elle doit arriver réellement avec l'Antéchrist. Mais nous en avons une idée déjà, à partir de tout ce que nous voyons et entendons, un peu comme Lot à Sodome. Il était attristé, est-il dit, en raison de tout ce qu'il voyait et entendait autour de lui constamment. Mais imaginez quand le frein à l'apostasie ne sera plus là. Quand le Saint-Esprit, l'Église auront disparu de cette terre, alors dans ces temps-là, tous adoreront le dictateur qui passera évidemment pour le sauveur temporel, la bête. Oui, la bête. Pourtant, le sauveur temporel du monde qui répondra à des problèmes comme ceux que nous connaissons, que nous rencontrons, mais je ne veux pas anticiper sur demain soir. On nous dit souvent, l'homme descend de la bête. Non, moi je dis, il va vers la bête. Ça, c'est tout à fait authentique alors, hein, parce que la bête est en train de monter là. Elle vient rapidement. Oui, néanmoins, dans ces temps difficiles, Dieu se gardera dans cette grande tribulation. Oui, un témoignage par ces deux témoins, surtout dans la deuxième partie de ces 7 années, c'est tellement clair, auquel il est fait allusion de cette façon-là, 42 mois, ou 1260 jours, ou encore un temps des temps et la moitié d'un temps, tout ceci correspondant à 3 ans et demi. Deux temps, nous le verrons demain, première 3 années et demie, un temps de séduction, et le deuxième temps, un temps de persécution, de jugement, de tribulation et d'angoisse comme la terre n'en aura jamais connu, est-il précisé. Et c'est au terme de cette tribulation, alors que l'Église sera dans sa pleine lune de miel céleste, dans ces temps, au terme de ces temps de tribulation, qu'alors le Seigneur apparaîtra. Il apparaîtra dans toute sa gloire. Avec nous, il descendra pour liquider l'Antéchrist, pour commencer d'établir son règne de 1000 ans sur cette terre, après que tous les régimes humains politiques auront fait la preuve de leur totale faillite. Et les chefs d'État et les ministres n'iront plus à Tokyo ni à Reykjavik pour chercher les ordres. Ils iront à Jérusalem, à la rencontre du roi des rois, du seigneur des seigneurs, du prince de la vie, qui règnera sur cette terre pendant 1000 ans. Et permettez, je ne peux pas en dire plus sur la tribulation, mais permettez que pour clore, parce que maintenant, ça va durer comme hier, hein. Et puis celui qui enregistre, il fait la grimace. Non, il a été très gentil, je dois dire, incontestablement. Si le Seigneur revenait ce soir, est-ce que vous partiriez? C'est avec ces mots que j'ai fini hier, mais je vais être plus précis. Vous connaissez peut-être, vous avez entendu parler de ce grand savant qui était un authentique croyant américain et qui s'appelait Edison, auquel nous devons d'être éclairés dans ce lieu ce soir. Hein, oui, Dieu l'inspira pour l'invention de l'ampoule électrique. Bonne invention, ça. Hein. Hydro-Québec. Et Dieu l'inspira aussi pour, mettre au point l'ancêtre du magnétophone. Et Edison attendait le Seigneur en son temps. Il parlait du Seigneur dans son laboratoire. Hein. C'était une grosse tête, mais qui croyait non seulement dans le Seigneur pour son salut, mais aussi dans le retour du Seigneur. Et au laboratoire, on lui riait au nez. Edison, précisons-le, est mort bien avant le retour d'Israël dans son pays, pas tellement longtemps avant, je crois qu'il est mort en 1941, si mes souvenirs sont bons. Mais enfin, il n'avait pas vu ce grand retour au pays de la Bible. Ceci manquait à ses données, mais il le croyait, hein, le retour d'Israël, annonciateur du retour de Christ. Il disait à ses amis savants, ses collègues au labo, « Mais moi, j'attends le retour du Seigneur. Nous allons partir, nous, chrétiens. Si vous allez partir, vous. » Alors, c'était la grande risée, les moqueries, comme ceci peut se passer pour nous. Hein. Quand on parle du retour du Christ autour de nous, on dit des chrétiens, ils ont certainement des papillons sous l'abat-jour. Ils sont complètement fous. Ils croient cela. On y croit pourtant. Hein. Alors, un jour, qu'on s'était moqué de lui, Edison avait dit à ses collègues, « Écoutez, je vais dans la pièce à côté, je ne tarde pas. » Il était allé là-bas. Et il était revenu avec en main une caisse contenant du sable mélangé avec de la limaille de fer. Il était allé ensuite chercher un puissant aimant pour dire à ses amis savants, « Nous allons, je ne vous apprendrai rien, vous êtes des savants comme moi, mais nous allons revoir ensemble ce phénomène physique du magnétisme. » Et on ne s'étonne plus. Il y a un phénomène physique du magnétisme, physique. Ceci fait partie des lois naturelles. Et il avait approché lentement, l'aimant de cette caisse contenant du sable mélangé à de la limaille de fer. Quand, à une certaine position de l'aimant, sans que l'aimant ait encore touché la caisse, hein, à une certaine position de l'aimant par rapport à la caisse, tout à coup, le sable dans la caisse s'était mis à bouger. Oui, ce sable qui bouge illustration des signes des temps. Il y en avait déjà du temps d'Edison. À plus forte raison, aujourd'hui, si le sable commençait de bouger du temps d'Edison dans la caisse de ce monde, à plus forte raison de nos jours, Edison n'avait pas même vu le retour d'Israël, ni la résurrection de la nation d'Israël, de la langue hébraïque, etc. Il n'avait pas vu tout ça. Nous, ça se passe sous nos yeux, n'est-ce pas? Les signes des temps. La limaille de fer ayant éprouvé que l'aimant n'était pas loin. C'est ce que Jésus dit en Matthieu 24. Quand vous verrez ces choses arriver, ben, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Et le peuple de Dieu l'éprouve. Est-ce que vous l'éprouvez? À partir de tout ce sable qui bouge un peu partout. Quand on pense aujourd'hui à l'Europe, demain soir. Hein, quand on pense à cette réunion qui va avoir lieu à Rome entre Arabes, Juifs, Palestiniens. Quand on pense à tout ce sable, nous avons parlé hier de l'environnement, de l'écologie, je ne peux pas revenir, du phénomène violence. Oui, nous avons parlé du phénomène de la guerre, etc., du sida, des nouvelles pestes. Je ne peux pas revenir sur toutes ces choses ce soir. Achetez la cassette. C'est pas cher, il paraît. Oui, le sable bouge apparemment comme jamais. Précédemment, l'aimant n'est pas loin. Le Fils de l'homme est à la porte. Il est proche. Il vient. Puis Edison avait approché d'un peu plus près, sans toutefois toucher cette caisse avec l'aimant. Alors, il y avait de la limaille de fer à la surface du sable. Image des chrétiens trouvés debout, hein, comme dit l'apôtre, sur cette terre encore vivant. Et il y avait de la limaille de fer à l'intérieur du sable. Image des chrétiens décédés. Ayant approché un peu plus cet aimant de la caisse, toute cette limaille de fer avait été littéralement enlevée, volée, ravie, happée. Tiens, c'est pas mal du tout, ça. Nous serons happés. Fantastique. Ça y est, je crois que j'ai trouvé un mot. Bon, nous serons tous happés, littéralement, jusqu'au divin aimant, en un clin d'œil, en un atome d'instant. Nous serons enlevés à l'aimant. Alors Edison d'avoir dit à ses amis savants, vous êtes savants comme moi, vous savez pourquoi seule la limaille de fer a été enlevée? Pourquoi? Parce que l'aimant, oh, écoutez bien cela, mes amis, hein, surtout vous qui n'êtes pas sûrs d'être sauvés, qui ne l'êtes pas du tout, hein, l'aimant n'attire à lui que ceux qui lui correspondent. Alors je vous pose une question, est-ce que vous correspondez au divin aimant? C'est-à-dire à Jésus-Christ, au jour où il apparaîtra pour enlever à lui ce qui lui appartiennent. Ça veut dire quoi, cela? Edison de continuer. L'aimant n'attire à lui que ce qui est de la même nature que lui. Oh, mes amis, soulignons cela. Quoi, le chrétien est de la même nature que le Seigneur? Il nous a rendus participants de la nature divine. Oui, ça c'est Pierre qui le dit en 1 Pierre 1 et quelques versets plus loin. Et puis Hébreux 2, 14 dit, nous avons été rendus participants de Christ. Un vrai chrétien n'est pas quelqu'un qui adhère intellectuellement ou sentimentalement, même à la doctrine chrétienne ou à un héritage religieux qui lui est venu de ses ancêtres. Un authentique chrétien est quelqu'un qui adhère au Christ, à une personne. C'est quelqu'un qui a reçu Christ dans son cœur par la foi et qui vit de Christ, qui a été rendu participant de Christ dans la vie duquel la vie de Christ coule parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Et la Bible dit que tout croyant a reçu l'Esprit de Dieu. Si vous l'avez reçu, si vous êtes sauvés, seuls ceux qui ont reçu l'Esprit de Christ appartiennent au Christ, la Bible dit. Mais voyez-vous-même, considérez-vous-même, revoyez-vous-même si vous êtes réellement dans la foi. Ne voyez-vous pas que Christ habite en vous? Est-ce qu'il habite en nous par son Esprit? Est-ce que nous lui correspondons? Oh, pour lui correspondre, il nous faut d'abord reconnaître que nous sommes pécheurs. Ensuite, il nous faut venir à lui dans la repentance, parce que pécheur, pour lui dire, Seigneur, sauve-moi, je te fais confiance, tu m'aimes, tu as tout fait pour me sauver, non seulement de la perdition éternelle, du jugement, tu as tout pris pour moi sur la croix, mes péchés, mon jugement. Pour celui qui est sauvé, son jugement est derrière lui, Christ l'a subi à sa place. Voilà pourquoi il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, dit l'apôtre en Romains 8. Où en êtes-vous, mon ami? Où en es-tu, cher ami? Voilà ce qu'il avait dit donc Edison. Vous partirez ou vous resterez. Le divinement est proche à la porte. Et permettez que je termine avec une autre parabole courtement. Voyez pourquoi je n'ai pas pu insister sur la grande tribulation. Mais vous avez tant et plus d'ouvrages solides, surtout de ce cher ami John MacArthur, hein. Et je vous recommande ses écrits et ses cassettes. Elles m'ont fait énormément de bien en France. Une dernière parabole et puis nous terminons. Luc 21, je ne vous tiens pas longtemps. Vous me donnez 10 minutes? Ok. Pas 4 heures, 10 minutes. Luc 21, Jésus parle du figuier et de tous les arbres. Il leur dit une comparaison. Verset 30. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Alors, c'est dans ces textes que nous avons une date. Alors, je vais vous la donner. Est-ce que vous la voulez? Jésus dit, quand vous verrez le figuier... Habacuc 3.17, le figuier, c'est quoi? C'est Israël. Trois métaphores, c'est-à-dire trois images, trois illustrations pour Israël. Le figuier, l'olivier, la vigne. Et là, Jésus use de cette métaphore du figuier qui parle d'Israël. Il s'agit là d'une parabole. Le figuier est un des symboles d'Israël. Quand vous verrez le figuier pousser des feuilles tendres, revivre, renaître, le retour d'Israël dans son pays, pour se retrouver en tant que nation, ceci ne lui était pas arrivé depuis. Quand vous verrez cela, nous le voyons de nos yeux, c'est un phénomène prodigieux, littéralement. Mais quand vous verrez aussi toutes les nations, les autres arbres autour, et Matthieu ne parle pas des autres arbres, parce qu'il eut vocation, je le disais hier, de s'adresser aux Juifs, Luc a un horizon beaucoup plus large, au monde entier. Quand vous verrez donc le figuier et tous les arbres, renaître, pousser des feuilles tendres, vous dites l'été est proche. À propos des autres arbres, eux aussi connaissent un bouillonnement fantastique. Ceci rejoint le psaume 2e qui dit quoi? Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Mais quel tumulte! Il n'y avait jamais eu de tumulte, d'effervescence, de bouillonnement. D'abord, chez les nations autour d'Israël, de façon assez directe. Et puis, dans le monde tout entier, quel est le pays qui ne bouge pas aujourd'hui, franchement? Quel bouillonnement en Europe! Nous sommes en pleine construction de l'Europe! Je vous en dirai un mot demain soir, pas plus, pour vous en donner le goût. Alors, ça bouge partout, en Amérique latine, ça bouge même au Québec, au Canada, aux États-Unis, partout. En Afghanistan. Imaginez l'implosion du bloc de l'Est. Tout ce que nous connaissons, nous avons la guerre aujourd'hui à une heure et en Europe centrale, à 1h30 de Paris, en avion. Et tous les arbres, quand vous les voyez pousser des feuilles tendres, vous dites quoi? L'été est proche. Mais revenons au figuier. Qui connaît le figuier ici? Levez la main. Pour qui connaît le figuier, il peut s'étonner que Jésus, en parlant du figuier, ait parlé de l'été. L'été n'a rien à faire avec le figuier. Le figuier n'a rien à faire avec l'été. Pourquoi? Parce que le figuier, nous en avons en France dans le Midi, le figuier lui donne une première récolte début juin, mi-juin, comme cela. mais elle est rare, quelques figues, pas beaucoup, vraiment pas beaucoup, avant l'été. Et ces figues sont appelées les figues fleurs. Suivez donc le schéma du Seigneur dans cet enseignement, tellement riche de sens. Et ces figues fleurs ne représentent pas la conversion d'Israël. Ces figues fleurs représentent les quelques juifs assez rares qui aujourd'hui se convertissent à Jésus-Christ et qui entrent dans l'Église. C'est la figue fleur, en fait, si vous voulez, hein, mais qui annonce la vraie récolte. Et la vraie récolte, ça n'est jamais en été, c'est à l'automne. Et quand j'étais enfant, on allait avec des paniers en automne chercher des figues, on en mangeait directement sur l'arbre, on se régalait de figues. Évidemment, pour vous, ça ne peut pas se concevoir, hein. Il n'y a pas de figues au Québec. Si le figuier avait quelque chose à voir avec l'été, avec la conversion plutôt, avec la conversion d'Israël, Jésus aurait dit quoi? S'il avait enseigné la conversion d'Israël par cette parabole, il aurait dit, quand vous voyez le figuier pousser des feuilles tendres, vous dites l'automne est proche. Il n'a pas dit ça. Il a dit l'été est proche. Alors quoi l'été? Le figuier donne son fruit, son vrai fruit à l'automne. Pourquoi l'été? Alors, voilà pourquoi. Le mot « été » en grec, la langue du Nouveau Testament, et le mot « moisson » en grec ont même racine. Pour ceux qui ont fait un peu de grec, comme c'est mon cas, le mot « été » « théros ». Et le mot « moisson » « térismos ». Parce que dans ces pays-là, la moisson, c'est l'été, c'est en été. Et jusque dans nos pays, la moisson, c'est en été. Mais la moisson, c'est quoi? C'est pas le figuier. On parle de récolte des figues, pas de moisson de figues. La moisson, c'est le bon grain. Et quelle est la métaphore du bon grain? C'est l'Église. C'est toi, mon frère. Toi, ma sœur, c'est moi. La moisson, c'est l'enlèvement. Quand on fauche le blé, on l'engrange ensuite dans les greniers. Alors, l'été, c'est l'enlèvement du bon grain. C'est l'enlèvement de l'Église. Et après l'enlèvement, alors viendra la récolte des figues à l'automne. Voilà notre schéma eschatologique, notre schéma prophétique. D'abord l'enlèvement de l'Église, puis ensuite, j'allais dire, oui, l'été, si vous voulez. Un été très chaud pour la terre. Ah oui, hein. Fait de deux périodes, comme nous le disions. Et à l'automne, à la fin de l'été, et à l'automne, la récolte des figues. En attendant, l'Église, elle, aura été fauchée de la terre pour être engrangée dans les greniers célestes. Et en enseignant cette parabole du figuier et de l'été, alors quand on me dit, Alain Chouaquier, l'enlèvement, c'est pour quand? C'est pour l'été. Mais je n'ai pas dit l'été 92. Je n'ai pas dit l'été 93, ni 94, ni l'été 1999. Non. C'est un été prophétique, un été métaphorique, un été que nous devrions déjà voir venir par les yeux de la foi. Voilà. Hein? Alors le Seigneur pourrait encore tarder, voulant que le plus grand nombre soit sauvé, ou bien voudra-t-il revenir ce soir au niveau de ton couple, de votre couple? L'un sera pris, l'autre laissé. Ou demain dans la journée, au bureau. Ah non, c'est samedi. Mais peut-être hein, chez Sears, ou chez Eaton, ou dans votre voiture, l'un partira, l'autre restera. Oh, mes amis, que c'est sérieux! Où en êtes-vous quant à cette immense espérance que l'Église a nourrie depuis qu'elle a commencé d'exister sur cette terre? Des hommes, des femmes, par millions aujourd'hui, attendent ce grand retour. Est-ce que vous l'attendez? Combien de vous à l'attendre? Levez la main. Oui, des mains ne se lèvent pas. Est-ce que vous attendez, vous, le déluge de feu? Repentez-vous de vos péchés. Venez au Christ et dites-lui, Seigneur, ce soir, sauve-moi. Je me repens de mes péchés. Je veux réellement devenir chrétien dans mon cœur. Ô Seigneur, rencontre-moi ce soir. Et que je commence, à partir de ce soir, à faire partie de tous ceux et celles qui attendent et qui vivent de toi tous les jours, de ta présence, qui vivent de ton esprit, qui vivent de ta parole. Ô Seigneur, sauve-moi maintenant, voulez-vous lui dire. J'aimerais vous y inviter. J'aimerais vous demander simplement de prier le Seigneur. Mais peut-être parce que vous n'avez pas les mots, je vais vous les passer. Courtement, vous allez répéter la prière que je vais dire, c'est pour vous aider. Vous la répétez silencieusement en vous, phrase après phrase, mais vous la dites du fond du cœur parce que c'est la prière qui vous ouvrira du dedans sur le Seigneur. Dites-lui, Seigneur, jusqu'à ce soir, j'ignorais même jusqu'à ton retour. Et pourtant, je me dis chrétien. Seigneur, je n'ai aucune certitude quant à mon salut. Ô Seigneur, aie pitié. Je ne vis pas cette espérance vivante. Ô Seigneur, tu sais ce qui est en moi, dites-lui cela. Mais je n'ai pas tout compris, mais j'ai compris que je suis un pécheur devant toi. Et parce que pécheur, je suis perdu, Seigneur, aie pitié. Et je viens ce soir dans la repentance, mais aussi dans la confiance, pour que tu me sauves. J'accepte que tu as porté mon péché personnel sur la croix, dites-lui, comme si mon péché personnel avait été le tien. Oh, tu l'as pris comme s'il avait été le tien, Seigneur, pardon. Et tu as été déchiré sur cette croix, dans ton corps, dans ton âme. Oh, Seigneur, pardon, c'était pour moi. Et tout cela pour que je sois sauvé. Tu as payé le prix. Et tu me donnes, tu m'offres ton salut ce soir, je le prends. Oui, Seigneur, sauve-moi. Et parce que tu es ressuscité, parce que vivant, oh, viens dans ma vie, Seigneur, viens vers moi ce soir, je t'appelle, je crie à toi. Seigneur, sauve-moi. Maintenant.